affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. En visitant le musée du Louvre, peut-être vous êtes-vous attardé devant le portrait de Bertin l'Aîné réalisé par Ingres. Tant par sa stature imposante que par son regard perçant et sa moue légèrement dédaigneuse, le portrait évoque l'assurance et l'énergie. Pour nombre d'observateurs, ce portrait en est venu même à personnifier la bourgeoisie triomphante des Trois Glorieuses. Mais qui était vraiment Bertin l'Aîné? Mérite-t-il d'être ainsi résumé à sa condition sociale? Ça fait partie des questions que nous allons examiner dans l'heure qui vient, non pas par pure spéculation, mais grâce à Jean-Paul Clément, qui vient de publier aux éditions de Fallois, la première biographie de Bertin l'Aîné, sous-titrée « Où la naissance de l'opinion », ce qui nous induit à penser que le personnage est décidément plus complexe que ce visage nous le laisse penser. Monsieur Clément, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Je précise que vous êtes historien, que vous avez, bien entendu, que vous avez d'ores et déjà rédigé une biographie de Chateaubriand, qui était l'un des amis très proches de Bertin l'Aîné, ce qui est une seconde indication sur la complexité du personnage, et que vous êtes membre correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques. Ma première question, pour avoir une connotation quasi marxiste, en tout cas on va essayer de remonter dans le temps et partir à l'origine du personnage. D'où vient Bertin l'Aîné dans sa jeunesse? De quel milieu est-il? Dans quel milieu évolue-t-il? Et dans quelle période troublée de l'histoire de France? Car j'ai oublié de le préciser, Bertin l'Aîné a cette particularité d'avoir traversé dans sa vie l'ensemble des régimes politiques de la France.
Je reprendrai un mot dédaigneux. Un deuxième, bourgeoisie triomphante. Sachez, et vous ne l'ignorez pas non plus, que être bourgeois, pour les romantiques du XIXe siècle, c'était un philistin. L'image, c'est le grand banquier d'affaires que nous trouvons, par exemple, dans l'éducation sentimentale. Bertin, c'est autre chose. Et vous avez montré, évidemment, ce portrait illustre, qui est certainement l'un des chefs-d'œuvre d'Ingres. Et je voudrais, si vous le permettez, citer quelques lignes d'un critique d'art de l'époque qui nous enchaînera et nous entraînera vers le Bertin tel qu'il est. Si vous permettez, je lis ce passage.
Bien entendu.
Eh bien, Ingres, qui est-ce? Ce front large, ses yeux petits et légèrement voilé, avec cette bouche noble et bienveillante. Vous voyez pour le dédain. Bienveillante. Toute cette allure abandonnée, cette énergie musculaire de la face, ces fortes épaules, ces mains qui ressemblent à des racines. Ne ferait pas une histoire vraie de M. Bertin l'Aîné, vraie pour ceux qu'il aime, mais pour ceux qui l'ont pour adversaire politique, oui, pour ceux qui le reconnaissent en lui, et je m'honore d'en faire partie, son portrait, c'est lui tout entier, c'est son épopée. Alors, un bourgeois épique, vous imaginez
c'est
tout de suite
contradictoire.
Que c'est, ça semble contradictoire. Eh bien oui, parce que Bertin dit l'Aîné, eh bien, a traversé toutes les tourmentes d'une histoire particulièrement agitée, C'est un contemporain de Chateaubriand, à quelques années près. Et pour reprendre et répondre à votre question, eh bien, il est né dans un lieu privilégié. Quel lieu ? Chanteloup. Qui a visité Chanteloup, dont il ne reste qu'une pagode mélancolique au bord d'un étang ? C'est un palais. Aussi fastueux, sans doute, et je le regrette, étant passionné de patrimoine, le palais qu'avait fait construire tout en marbre le duc de Choiseul, disgracié par Louis XV, et qui résidait là jusqu'à la fin de sa vie. Et il y avait, c'était une cour. Toutes les célébrités de l'Europe pensante, intellectuelle, et en France, je pense à Madame du Deffand, par exemple, tous et toutes sont venus là-bas. Et Bertin est né dans ce milieu, particulièrement cultivé. Son père était écuyer de duc de Choiseul. Il était non pas un fils unique, mais cinq enfants sont nés, cinq fils, dont il ne restera que deux, lui, Bertin l'aîné, et son frère, très important aussi, qu'il ne faut pas oublier, Bertin de Vaux.
Pouvez-nous, vous nous avez décrit le lieu et le milieu, donc on est là dans l'aristocratie libérale.
La grande aristocratie, un palais magnifique qui, hélas, est devenu la propriété de Chaptal, certainement un grand homme, mais qui a transformé le parc magnifique de Choiseul en un champ de betteraves, puisqu'il est l'inventeur du sucre et de la betterave à sucre. Quant à son fils, était quelqu'un de un peu dévoyé, un joueur invétéré, et il a livré, à l'époque de la Restauration, ce qui peut surprendre, aux bandes noires, qui ont véritablement fait des ravages, eh bien, aux bandes noires, la démolition. Et vous imaginez qu'un palais tout en marbre attirait évidemment des convoitises.
Et dans ce milieu, pouvez-vous nous décrire l'ambiance intellectuelle? L'ambiance intellectuelle. Ce sont des gens extrêmement lettrés, mais où se situe-t-il dans ce 18e qui est traversé de nombreux contrastes?
Eh bien, dans ce 18e, donc Choiseul fut des principaux ministres. Et puisque nous sommes en 2018, rappelons que c'est à lui que nous devons le rattachement de la Corse à la France par un traité du 15 mai 1768. Mais je passe là-dessus, c'est un grand seigneur entouré de cette cour, avec près de 300 ou 4 valets, écuyers, que sais-je encore. Et c'est véritablement l'un des grands salons dans ce lieu reculé, parce que Chanteloup est tout près d'Amboise. Donc nous sommes tout de même assez loin de Paris, et il ne rentrera jamais en grâce, même lorsque, à la mort de Louis XV, Louis XVI lui succédera. Mais il y a là de grands dépenseurs, et surtout un abbé Barthélemy. Et l'abbé Barthélemy est l'auteur du voyage du jeune Anacharsis en Grèce. Un roman qui a connu un succès extraordinaire, que Bertin, le jeune Bertin, a connu, et qui expliquera qu'un jour, dans le journal des débats, ils prennent feu et flamme pour l'indépendance des Grecs. Comment ce petit peuple qui a irrigué la pensée de l'Europe occidentale, reliée par les Romains, comment ce petit peuple qui se soulève va se libérer du joug ottoman, eh bien, comment faire ? De partout dans l'Europe romantique. On va essayer de...
Mais là, c'est le lien entre la culture classique et la culture romantique.
Exactement. Alors, les romantiques sont tous dressés contre le joug ottoman, et le journal des débats jouera son rôle avec, bien entendu, Chateaubriand, qui sera président du du comité Philhellène de Paris, avec d'autres qui réunissent des gens de droite comme Bonald, des gens de gauche comme Ternaud, peu importe.
Byron, je crois aussi.
Byron, bien entendu. Enfin, bon. Donc c'est un milieu très cultivé, dans lequel il passera ses premières années, et puis il va entrer au lycée Sainte-Barbe, qui était un des lycées les plus célèbres. Et on sent déjà poindre chez lui une ambition. Quelle est cette ambition ? De créer un journal. Et ce que l'on peut remarquer, Bertin, avec une sorte de flair extraordinaire, va recruter ses premiers collaborateurs parmi ses condisciples de Sainte-Barbe, qui lui resteront fidèles, quoi qu'il en coûte, pendant toute la période du consulat et de l'Empire.
Oui, car nous avons bien oublié de préciser que Bertin sera le fondateur du journal des débats, mais avant cela, il y a la Révolution. Comment se positionne-t-il par rapport à ces événements qui sont quand même cataclysmiques pour un contemporain ?
La Déclaration des droits de l'homme libère la France. Une France qui est très en retard sur l'Angleterre. La direction de la librairie, même lorsqu'elle est dirigée par Malesherbes, est très en retard. Déjà, les grands journaux, le Times de Londres, existent déjà depuis les années 1770-1780. Donc, les grands journaux existent en Angleterre. Et Bertin est angliciste. Il traduira un jour les romans noirs de Lewis lorsqu'il sera en exil. Donc, il admire l'Angleterre et il va choisir ses collaborateurs. Et puis, la Révolution survient. Lui et son frère vont adopter les idées nouvelles comme c'était à la mode. Lorsqu'ils se rencontrent, elle commence un peu dans le sang. C'est ce qui frappe par exemple Chateaubriand, lorsqu'il voit passer de la rue du Mail où il est avec sa sœur Lucille, il voit passer les effigies pâles et défigurées de Foulon, le ministre des Finances, et de Berthier de Sauvigny, l'intendant de Paris, pour une affaire de blé vert qui aurait été recelé et qui réduirait la population parisienne à la famine. Il voit ça. Et cette révolution de la liberté commence dans le sang. Et petit à petit, il perçoit que la révolution est petit à petit captée par une minorité, celle des Jacobins. Puis la terreur survient. La terreur survient et il est obligé de se cacher. Après la fin de la terreur et la chute de Robespierre, il va racheter un journal à un certain Baudouin. Il va racheter le journal L'Éclair. Alors, comme son nom l'indique, L'Éclair ne fait que passer. Mais il va rester une maison. Une maison très simple, à l'ombre des clochers de Saint-Germain-l'Auxerrois, ou des prêtres Saint-Germain. Et cette maison sera le siège d'une puissance qui ne cessera de s'affirmer au cours des âges, dès le début du XIXe siècle, ce journal qu'il va créer. Mais en attendant, il gère L'Éclair, puis un jour, il va véritablement, nous sommes à l'époque du consulat, créer son journal, journal des débats littéraires et politiques. Si ce n'est qu'il va rencontrer face à lui, il est royaliste, royaliste modéré, mais royaliste. Il va se retrouver face à tous ceux qui ont persisté, ont échappé à l'échafaud, les idéologues, à l'Institut où nous sommes. Ils sont là, dans leur camp retranché. Et puis, il y a tous les révolutionnaires, ce que j'appelle le patriciat de l'échafaud, tous ceux qui ont tous les pouvoirs en main, et au premier rang, Fouché.
Ah bon, pour recontextualiser cette époque, vous nous précisez que le journal des débats remplaça l'enseigne de l'imprimerie installée depuis longtemps déjà dans la maison où donc il a pris ses locaux.
Donc je donne quelques images. Vous voyez, là, on verra dans cette image combien cette maison est simple.
Oui,
il ne la quittera jamais.
Initialement, était ici là le Calculateur Patriote, une autre publication donc de l'époque de la Terreur, j'imagine, et dont le sous-titre était le suivant, Le Calculateur Patriote, compte rendu aux sans-culottes de la République française par Dame Guillotine, contenant les noms de ceux à qui elle a accordé des passeports pour l'autre monde. Tout un programme, toute une ambiance.
Oui.
De fait, on comprend qu'un Bertin Lainé et bien d'autres se soient sentis relativement mal à l'aise dans une telle période, sans pour autant être un ultra.
Exactement. Exactement. Et Bertin va entrer dans cette période du consulat, qui est très rapidement un régime qui remet de l'ordre, qui rétablit les relations avec la papauté, va conclure le concordat. Mais ce qui est évidemment compliqué est de faire vivre un journal. Et c'est la grande ambition de Bertin, c'est de créer un journal régulier et quotidien. Car, pour reprendre ce que je disais auparavant à propos du XVIIIe siècle, et je songe à un livre de l'Américain Robert Darnton qui parle du prolétariat des Lumières. C'est-à-dire que, sous le XVIIIe siècle, on publie des feuilles volantes, des pamphlets qui passent sous le manteau, un prolétariat de folliculaires, de petits publicistes, car le mot journaliste n'existe pas, de publicistes qui écrivent, et puis bon, ils vont tenir un journal pendant quelques mois, et puis ce journal s'évanouit. Toujours suspecté par un pouvoir très intransigeant, qui est celui de la monarchie absolue. Donc, il est parti de cette idée qu'il fallait, au contraire, reprendre l'exemple anglais, de même que Louis XVIII, avec la charte, reprendra l'exemple anglais en essayant d'instituer une monarchie représentative, auquel les Bertins seront très attachés, qu'ils défendront jusqu'au bout. Mais en même temps, créer un journal, et un journal régulier, destiné à une élite. Et ce mot est extrêmement important. Je n'y attache aucun sens péjoratif, mais le journal des débats sera toujours le journal dont l'abonnement était très cher, le journal d'une élite intellectuelle, celle qui compte à Paris, à Lyon, dans les grandes villes.
S'adresse aux décideurs, en quelque sorte.
Exactement. Et n'oublions pas que, sous l'Empire et ensuite sous la Restauration, dans un pays de 32-33 millions d'habitants, le nombre d'électeurs est de 100 000 sous la Restauration. Et après, bon, formidable, sous la monarchie de Juillet, il passe de 100 000 à 200 000. C'est vraiment très restreint. Donc, c'est ce public-là, celui qui tient les manettes du pouvoir, celui qui tient l'opinion, c'est eux que Bertin va s'adresser. Et curieusement, ce journal restera le journal de l'élite, résistant à tout ce qui est dans la période qui suivra, la création de la presse à grand tirage, d'Émile de Girardin, ne dépassera jamais un tirage de 12 000 à 13 000 exemplaires.
Oui, ce qui à l'époque de Girardin est peut-être plus faible, mais au départ, c'est l'un des plus gros tirages réguliers de l'époque.
Bien entendu,
le plus important. Alors, il faut peut-être éclairer la chose, c'est que le journal des débats, ça semble un titre extrêmement austère, Parce que initialement, si je ne me trompe pas, c'est un journal qui suit les débats de la Constituante, des assemblées, mais en réalité, c'est différent. Le titre est un peu trompeur.
Oui, parce que c'est d'abord, il rencontre des décrets, des actes législatifs, mais le génie de Bertha, c'est d'avoir, d'une part, réuni une équipe de grands écrivains. Lorsque un candidat se présente à lui, il lui donne quelques mois pour faire sa probation, si je puis dire, et lui dit « il faut savoir bien écrire ». Et donc, il va créer ce journal qui est informé sur tous les sujets. Non seulement la politique, mais aussi l'économie, les arts, les variétés qui sont tenues par Geoffroy, qui est un remarquable journaliste, par un certain nombre de personnalités, Saint-Marc Girardin, bien que un peu oublié, mais qui sera pendant 40 ans. On entrait dans les débats, dit l'un d'eux, comme on contracte un mariage. Certains sont restés 40 ans au service du journal et ils resteront fidèles dans les déconvenues terribles que les Bertins vont connaître à l'époque du consulat et de l'Empire, persécutés par Fouché, qui véritablement représente, qui y incarne l'ennemi juré et qui est à l'oreille de Napoléon.
Oui, d'ailleurs, l'attitude de Napoléon, enfin, même sous le consulat, est un peu ambivalente à l'égard du journal.
Parce que le mot « débat » pour Napoléon, qui vient de rétablir l'ordre, le mot « débat »
c'est déjà du désordre,
est synonyme de révolution. Donc, il ne supporte pas le mot « débat ». Il ne l'accepte pas. Donc, il va tenter, petit à petit, de mettre la main sur ce journal qui est indépendant, qui est, et cela va susciter beaucoup de convoitises, qui est très rentable, qui marche très bien. À la bonne période du consulat et de l'Empire, il rapporte, c'est très difficile maintenant de faire les rapprochements, mais 200 000 francs, ce qui est considérable comme chiffre. Et donc il suscite les convoitises. Mais Napoléon suit de très près cette opinion. Et Bertin est, alors on dira peut-être qu'il est un peu ondoyant, mais comme il est porté par cette grande idée, celle dont parlait Nisard, c'est-à-dire l'épopée. Il est l'incarnation d'une épopée. Il va créer quelque chose, c'est cela. Et il sacrifiera tout, et sa vie personnelle, puisqu'il travaille jusque dans la nuit à relire les copies. Eh bien, le mot « littéraire », pourquoi le mot « littéraire » vient-il en tête avant de mot « politique » ? Eh bien, il s'agit, et c'est très habile, sous les périodes du consulat, il se dit bien, l'empereur, premier consul, veut rétablir l'ordre, eh bien, nous allons parler de religion. Demander à Bonald d'écrire des articles, célébrer le règne de Louis XIV, qui avait été vilipendé à l'époque des Lumières, et s'en prendre justement au philosophisme et à Voltaire. Les articles contre Voltaire sont extrêmement vifs et virulents. Napoléon n'y voit aucun inconvénient. On célèbre même la dynastie des Bourbons. Napoléon n'y voit pas d'inconvénient particulier. Pourquoi ? Parce que lui aspire à recréer une nouvelle dynastie.
Une nouvelle dynastie, bien sûr.
Et donc, il accepte tout cela. Et puis, pour donner des gages à Napoléon, alors, on envoie des coups de canon, des canonnades contre l'Angleterre, ce qui ne peut que satisfaire la France qui est en guerre permanente avec l'Angleterre, mais c'est par la littérature que passent les idées politiques. Et c'est là la grande habileté, la grande habileté de Bertin, c'est de se faire accepter pendant un certain temps. Car dans une autocratie, petit à petit, le nombre de journaux diminue. Ils étaient très nombreux. À la fin de l'Empire, il en reste 4. Puis 3, puis 1.
Et puis on verra que lui-même aura des soucis.
Il n'y aura plus que le Moniteur.
Oui,
le dernier journaliste de France, ce sera Napoléon.
Cette façon de prendre un chemin de traverse pour continuer à conserver son compte à soi et sa propre liberté de penser, qui est de passer par la littérature, n'est-ce pas un trait qui va marquer d'ailleurs durablement finalement le paysage journalistique français ? C'est-à-dire autant la presse anglo-saxonne laisse tourner vers les faits, la presse française, un peu à l'image du journal des débats, préfère les éditorialistes, les gens qui mettent en perspective et qui donne des opinions, non pas sous la forme de plan fait, mais pas par des détours.
Exactement. Et le journal continuera d'ailleurs à donner une place très importante à la littérature tout au long du XIXe siècle. Et si on remonte le temps, je referme, ce sera une parenthèse simplement, mais on fait appel aux grandes plumes. Il y a petit carteron, si je puis dire, de journalistes patentés, fidèles, loyaux, qui resteront dans les pires épreuves. Et puis, les grandes plumes, celles de Chateaubriand, de Berlioz, de Hugo, de Lamartine, qui vont apporter évidemment beaucoup d'éclat. Donc ce n'est pas un journal ennuyeux. Et lorsque a été célébré le centenaire du journal des débats, eh bien, l'un des rédacteurs, Perret, si je ne m'abuse, a dit « Mais si l'on reprenait, cela n'a jamais été fait, le journal des débats, eh bien, ce serait une histoire précise, authentique, du XIXe siècle. Tout est rapporté, et à mesure que le journal prend de l'importance, eh bien, il établit des correspondants à l'étranger, ce qui est tout nouveau. À Londres, à Saint-Pétersbourg, à Rome, le journal des débats a des correspondants. Donc on sait ce qui se passe à l'étranger dans cette Europe du temps. Mais la grande épreuve, évidemment, ce sera celle que va connaître Bertin au moment de l'Empire. Napoléon ne supporte pas Bertin, il n'aime pas Bertin, il n'aime pas le personnage. Et Fouché est là, constamment à l'affût, comme un guetteur. Chateaubriand, dans les mémoires d'Outre-Tombe, parle de hyène, de chacal. Je crois que c'est chacal plutôt que hyène, chacal. Lorsqu'il fréquente, en 92, il rencontre Fouché au club des Cordeliers, eh bien, il voit le chacal qui était là, à humer le sang de ses futures victimes. Et il sera sans répit. Et Bertin va connaître un moment la prison du Temple. Quelques années, imaginez ce que cela peut être, sans savoir quel sera l'avenir. Il va connaître la prison du Temple, où la famille royale avait été internée. En 1802, eh bien, on le retrouve exilé à l'île d'Elbe.
Si vous voulez bien, pour donner un peu l'ambiance de l'époque, si vous voulez bien, je vais faire lecture d'une lettre de l'épouse de Bertin l'aîné.
Alors ce sont des inédits. C'est cela qui était. J'ai trouvé cela, ces inédits. Je les ai recopiés et j'ai trouvé fort intéressant de les mettre parce que Madame Bertin, née Boutard, elle aussi était issue de cette petite bourgeoisie qui gravitait autour du palais Choiseul.
Alors voici comment elle s'adressait au ministre pour plaider la cause de son mari arrêté. Ça commence ainsi. Citoyen ministre, la santé de mon mari détenu au temple par vos ordres depuis le 22 Messidor Empire, chaque jour, je joins à mon mémoire un certificat du citoyen Corvisart, médecin de l'hospice de la charité, et je ne crains pas de provoquer le témoignage du médecin ou chirurgien de la prison du temple. L'esprit de justice qui vous anime ne vous permet pas de laisser languir dans une prison un père de famille sans l'interroger, sans le confronter avec ses accusateurs s'il en a. Daignez donc l'interroger. Mon mari n'a rien à redouter de l'examen le plus sévère. Si le soupçon excité par d'iniques dénonciateurs ne vous permet pas de lui rendre de suite sa liberté, ayez du moins égard à sa santé délabrée et rendez-le aux soins de son épouse et de sa famille. Mon mari ne peut, sans un danger imminent, rester plus longtemps en prison. Vous consoleriez-vous, citoyen ministre, d'avoir compromis la vie d'un citoyen innocent et ruiné, désolé, toute une famille. Salut et respect, femme Bertin.
Ah oui.
Le vocabulaire.
C'est encore la femme Bertin. Voilà.
Voilà, le vocabulaire et aussi oui. Le sentiment d'injustice et d'avoir été victime de complots, de jalousie et autres, pose le cadre dans lequel évoluent les protagonistes de cette affaire.
Et oui, parce qu'on voit petit à petit se resserrer autour de Bertin et de son journal l'emprise de Fouché et de Napoléon. On lui donne d'abord un censeur, Fiévé, qui est un homme versatile, mais très habile, fort intelligent, mais qui en même temps, à la fois, est le conseiller de Napoléon, il y a une correspondance secrète avec Napoléon, et en même temps, donc, il est favorable au Bertin.
Oui, c'est-à-dire que c'est un censeur qui va devenir petit à petit protecteur.
C'est un protecteur. Alors, on le nomme même rédacteur.
C'est là la complexité de l'époque.
À la place de Bertin. Et puis... on trouve que Fiévé est peut-être un tout petit peu trop laxiste, nous dirions aujourd'hui. Alors on va mettre à la place Étienne. Étienne est plutôt un voltairien. Mais ce voltairien, lui aussi, va être d'une certaine manière le défenseur. Au moment du mariage de Napoléon avec Marie-Louise, Napoléon se rend compte que l'ambassadeur d'Autriche fréquente un tout petit peu trop la cour de Marie-Louise. Il écrit un article furibond en exigeant que cet article paraisse dans le journal qui n'est plus le journal des débats, mais devenu le journal de l'Empire. Plus de débat. Et Étienne a le courage de dire non. Cet article ne passera pas. Et puis, on monte en cadence. Bertin est exilé, ce qui ne manque pas de piquant, à l'île d'Elbe.
12 ans avant son persécuteur.
12 ans avant. Et il obtient du gouverneur, qui est un homme sans doute fort débonnaire, un certificat pour se rendre en Italie pour 2 mois. Il dépassera très largement. Ils seront à Florence, où le grand poète tragique Alfieri vient de mourir. Il y rencontre Madame de Beaumont, Pauline de Beaumont, la maîtresse de Chateaubriand, qui est mourante. Et elle est venue après une cure éprouvante. Elle y a toute une correspondance touchante avec son ami Joubert, qui est aussi un ami de Chateaubriand. Elle arrive à Florence épuisée et Bertin va l'entourer de toute son attention, car c'est un homme bon, ferme, mais d'une grande bonté. Et ensemble, ils vont cheminer jusqu'à Rome. À Rome, Chateaubriand est chargé de légation auprès de l'oncle maternel de Napoléon, le cardinal Fesch. Il a installé sur le mont Pincio une petite maison au milieu des orangers. Et, Pauline mourra là. Et il fera élever à Saint-Louis des Français ce très beau tombeau, juste en face du canal de Bernice, qui avait été le grand ambassadeur de Louis XV et Louis XVI, qui était mort en 92, qui est un cénotaphe. Et dans cette première chapelle, lorsqu'on entre à gauche, on voit le tombeau de Pauline de Beaumont. Et à partir de là, se noue une amitié indéfectible entre Chateaubriand et Bertin. Et quelle que soit leur divergence après 1830, Chateaubriand restera légitimiste. Bertin va se rallier à la monarchie de Juillet, rien n'altérera leur amitié. Et ensemble, ils vont voyager, parce que Bertin n'est pas seulement un patron de presse, c'est un mécène. Sait-on, par exemple, que c'est lui qui a commandé à Giraudet le grand tableau des funérailles d'Atala, le roman qui avait rendu célèbre Chateaubriand, d'un seul coup. Bien. Et il est un mécène, il réunit dans son petit château des Roches, près de Bièvre, eh bien, il réunit tous les grands écrivains, des amis. Il faut montrer patte blanche, d'ailleurs, pour y entrer. On n'entre pas qui veut hein, au château des Roches. Et ils vont voyager ensemble jusqu'à Naples, écouter des opéras. Et parfois, on a presque l'impression d'être chez Stendhal. Parce qu'il juge les artistes, les cantatrices qu'il vient d'entendre, ici ou là. Et donc, il a une passion pour les arts, pour la peinture, pour la musique. Donc, c'est un homme très éclectique. Et ce n'est pas simplement un homme enfermé dans son bureau. Il y a aussi une immense curiosité qu'il porte sur son temps et sur tout ce qui se fait.
Oui, presque insatiable, d'ailleurs.
Pardon ?
Insatiable.
Insatiable.
Ce qui est fascinant dans le tableau que vous nous dressez, car lorsqu'il se promène ainsi en Italie, il est censé quand même être un exilé, quelqu'un oui. de banni, mis au banc de la société
mais oui,
française.
Mais oui,
et c'est là où on voit toute la complexité de l'époque, quand même. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut se faire totalement spolier de son journal, ce qui sera le cas.
Bah, il a été spolié.
Mais littéralement.
Mais un peu plus tard, il a été spolié. Parce qu'il rentre en France, après quelques mois dans son petit château des Roches, qui est une maison relativement modeste, le mot château est peut-être un tout petit peu excessif. Il rentre, et de nouveau, Fouché est là, et la décision finale est prise. Un jour, Napoléon décide de spolier sans indemnité.
Oui, c'est du vol pur et simple.
Bertin, et de répartir entre tous ses favoris. Cambacérès, Lebrun.
Il a fait la même chose avec l'Europe entière. Alors bon, c'est pas un journal qui a
pris. Chacun, il avait déjà pris des parts dans ce butin. Parce que, encore une fois, c'est cela. Le public reste attaché parce que les collaborateurs, eux, n'ont pas. Ne se sont pas comme ça évaporés. Ils sont restés.
Et c'est pour ça que c'est extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'on a à la fois les foudres du pouvoir, oui. Des censeurs qui préservent les rédacteurs en place,
oui.
Qui les laissent
exactement,
à peu près écrire
exactement.
Tout, mais en même temps, c'est propriété du pouvoir. Enfin, les choses sont moins tranchées qu'on pourrait
oui,
se les imaginer.
Mais oui, exactement.
Voilà.
Et tout est pris. L'imprimerie qui se trouve au rez-de-chaussée de la rue des Prêtres, le bureau, les meubles, je dirais presque jusqu'à la plume d'oie, tout est confisqué sans indemnité. Et Bertin se retire aux Roches, attend. Il attend tout simplement la chute de l'Empire, avec les graves fautes vraiment que commet l'empereur, le blocus continental, l'enlèvement du pape, la guerre d'Espagne qui est un échec. Puis, bien évidemment, la campagne de Russie. Donc, il attend, et en 1814, il rentre dans ses meubles.
Il rentre dans ses meubles avec des bâtons, des cadres, on a l'impression de revoir, par anticipation, la reprise du Provençal par Gaston Defer.
C'est ça.
On reprend en possession des
choses. Mais c'est bref, c'est la première restauration. Oui. Surviennent les 100 jours, il repère tout. Et de nouveau, on revient au journal de l'Empire. Et il faut attendre la seconde abdication pour que Bertin rentre enfin rue des Prêtres Saint-Germain-l'Auxerrois pour ne jamais quitter cette maison. Je trouve qu'il y a sans aucun doute des liens secrets. La fortune de ce journal est liée à ce lieu privilégié. Et il gardera toujours une très grande indépendance avec son allié, Chateaubriand, pendant toute la période de la Restauration. Mais vraiment, l'Empire est une période de grande épreuve. C'est pour ça que lorsque Nisard parle d'épopée, c'en est une. Et si c'est un grand bourgeois, ben c'est un grand bourgeois épique.
Oui, c'est un entrepreneur, on dirait aujourd'hui.
Oui, avec tous les risques du métier, parce que aucun ne s'était lancé dans un journal comme celui-là. Jamais. Au XVIIIe siècle, on n'en a aucune. On a l'Almanach des Muses, des choses comme, à condition qu'on parle de poésie, de badinerie, Florian, tout ça va très bien, ou des journaux de scientifiques. Mais là, c'est un journal qui entre dans le vif du sujet, qui traite de la politique et qui acquiert sous la Restauration une puissance considérable. Les débats, ils ont repris ce titre, littéraire et politique. Eh bien, les débats deviennent petit à petit une véritable, non seulement une institution, mais une véritable puissance. C'est là que se crée véritablement l'opinion, dans ce milieu restreint, bien entendu, ce milieu censitaire, mais ce milieu qui, petit à petit, va conduire Bertin à acquérir une telle autorité, un tel ascendant sur les ministres, que bien un jour, Villèle lui rend visite, Chateaubriand était disgracié, après la guerre d'Espagne et un passage au ministère des Affaires étrangères qui était plutôt glorieux, contrairement à ce que l'on dit. Et il dit, mais écoutez, donnez-lui une ambassade. Et Villèle répond, non. Eh bien, j'ai fait tomber le ministère de Cazes, vous aussi. Je vous ferai tomber. Vous perdrez, vous chuterez.
C'est ce qui s'est produit, mais dans des circonstances.
C'est bien ce qui s'est produit. Donc on voit là, petit à petit, cet apogée. Et cet homme qui est peint par Ingres en 1833, c'est un homme arrivé véritablement au sommet de son ambition. Mais que de travers, que d'habileté il a fallu utiliser pour arriver à cette toute puissance qui est celle de 1833.
Oui, je voulais dire, parce que il y a deux lectures en fait de ce destin, certes extraordinaire, qui fait débat encore aujourd'hui. D'une part, certains vont souligner à quel point il était habile pour maintenir de fait ses positions de monarchiste modéré, libéral, éclairé. Voilà, modéré, disons modéré, en toutes circonstances, il fait contre.
Très attaché à la charte.
Voilà, la charte.
Et au régime représentatif.
C'est l'homme de la tempérance. Parfait. D'autres sont plus sévères et le considèrent comme ils disent qu'il est habile, qu'il poursuit en toute chose plutôt son intérêt, celui de son entreprise, pas au sens économique du terme, mais de son entreprise, plutôt que ses convictions. Les deux sont peut-être vrais. Si vous voulez, je peux extrait d'un observateur du temps.
Cité.
J'ai mes sources, c'est dans votre livre.
En citant bien le nom du commentateur.
Le commentateur s'appelle Nettement, vous voyez, et il dit les choses.
C'est un villéliste.
Voilà, bien entendu. Nettement.
Attention.
Si on a suivi avec attention les phrases de cette histoire, on a vu que longtemps avant que les propriétaires du journal de l'Empire eussent été dépossédés par le gouvernement impérial, le journal avait sacrifié la question morale à la question d'existence matérielle. Il avait admis les faits accomplis, il les avait admis le lendemain de l'exécution du duc d'Enghien, il avait accepté la reconstruction du pouvoir en abandonnant le principe monarchique. Le journal des débats pendant l'Empire avait été moins une opinion qu'un intérêt. Il avait adopté les doctrines sociales dans tout ce qu'elles pouvaient avoir d'utile à son succès. Il les avait rejetées dans tout ce qu'elles pouvaient avoir de dangereux pour son existence. C'est sévère. C'est un adversaire qui parle, j'en conviens.
C'est un adversaire qui parle. L'intérêt moral, non, parce que il a défendu deux principes qui sont un petit peu le credo de Bertin. C'est ordre et liberté. Voilà, c'est cela. Et il a maintenu cette sorte d'équilibre entre les deux. En effet, sous la Restauration, au nom de la liberté, il va mener un combat sans répit, au nom d'un principe qui est un principe moral, c'est celui de la liberté. Il se trouve là véritablement en confraternité, amitié avec Chateaubriand. Toutes les grandes lois de censure, parce que, imaginons cette période, chaque année, ou presque, une loi de censure nouvelle est votée par la Chambre des députés. Donc il faut survivre. Et certaines lois sont particulièrement drastiques. Celles dites de Péronnet, la loi de justice et d'amour, ce qui est une sorte de contre-vérité, eh bien, va trouver, en effet, dans Chateaubriand, qui prend la plume, qui devient journaliste. Ce n'est plus simplement l'écrivain d'Atala et de René, ou du génie du christianisme. Eh bien, prend la plume et il devient véritablement un journaliste. Et quel journaliste ? Quel journaliste ? Et l'opinion va effectivement subir son influence. Donc, la liberté étant un principe moral, je crois véritablement, c'est pourquoi je l'ai dédié aussi à tous les journalistes qui, dans le monde, se battent, et Dieu sait qu'il leur reste encore beaucoup à faire. Je ne citerai pas les pays, mais pour faire triompher la liberté d'opinion, on voit toute l'actualité d'un Bertin dans un régime qui est autoritaire à l'époque de Napoléon et qui se méfie aussi de la presse à l'époque de la Restauration et plus encore à l'époque sous le règne de Charles X. Donc, il défend cela, bien entendu, alors nettement, qui est carrément du côté Villèle, ne peut pas supporter cela, de même qu'il est très hostile à Chateaubriand. Mais ils vont l'un et l'autre combattre ce projet de loi Péronnet qui va échouer, d'ailleurs, devant la Chambre des Pairs. La Chambre des Pairs se montre à ce moment-là plus libérale, tout simplement parce qu'elle est héréditaire, que la Chambre des députés. Et toutes les lois, la loi sur le sacrilège, la loi sur le droit d'aînesse, tout cela, tout ce qui pourrait être considéré comme un retour à l'ancien régime, face à ce régime nouveau, tempéré, qui vraiment répond aux vœux de Bertin, eh bien, trouvera dans les débats un adversaire, à tel point que lorsque Polignac, après Martignac, succède, et ce sera le dernier président du Conseil, un anonyme qui s'appelle Becquet, en fait c'est le point de vue du journal, dira « Pauvre roi, pauvre France », ce qui va conduire Bertin devant les tribunaux. Et il plaidera sa cause et sera acquitté. Donc, vraiment, encore une fois, je m'inscris en faux un peu contre nettement, mais en toute honnêteté d'historien, évidemment, j'ai tenu à rapporter toutes les opinions pour et contre.
Oui, bien sûr. Ce que nous apporte notamment votre ouvrage, c'est de rappeler que quelqu'un se situant, je dirais, au centre, plein de tempérance, de modération, c'est une position qui aujourd'hui peut sembler un petit peu tiède, manquant de courage, mais dans une époque d'excès, c'est héroïque.
Ah, c'est héroïque.
Tempéré, exactement. Sage et prétendument tiède. Car ce n'est pas toléré par les camps en présence qui, eux, réclament du sang, des incarcérations et de l'absolutisme au sens large, idéologique ou monarchique ou autre. Et donc, il est obligé, évidemment, de louvoyer entre tout un tas de jeux de force qui pourraient le broyer à tout instant.
Il suffirait que, si Charles X avait été Napoléon, bien le journal disparaissait. Mais on est tout de même, avec la Restauration, dans un régime relativement modéré, même sous Charles X. Et lorsque dans sa défense, dans sa plaidoirie pro domo devant le tribunal d'instance, il dit « Je suis très attaché à la charte, au roi législateur, c'est-à-dire à Louis XVIII. » Et donc, la liberté, elle est reconnue dans la charte. Donc, si j'ai dit « Pauvre roi, pauvre France », c'est tout simplement parce que j'ai exprimé mon point de vue. La monarchie court à sa perte avec ses lois qui petit à petit sont de plus en plus restrictives, cléricales, qui suscitent effectivement le retournement de ces électeurs censitaires qui sont pour beaucoup justement des bourgeois qui... C'est tout à fait remarquable d'ailleurs que jamais on a lu avec autant d'attention, réédition en réédition, les œuvres de Voltaire qu'à l'époque de la Restauration. Et Charles X s'est trompé en s'appuyant sur la propriété foncière, alors qu'on voit que l'industrie commence à prendre de l'essor, avec des gens comme Ternaux, avec d'autres, des banquiers, Coquelin en Alsace et d'autres, on voit petit à petit que bien, c'est une force croissante et montante, ce que Charles X n'a pas compris. Et vouloir en effet rétablir une monarchie sacrale et féodale, absolue, était effectivement d'un autre temps, étranger à son siècle. Il parle de Villèle lorsqu'il parle d'étranger à son siècle. Il dit, il a cette phrase étonnante, je parle de Chateaubriand, et qui pourrait s'appliquer à beaucoup de technocrates. Les chiffres ne produisent que des chiffres.
Au-delà des chiffres, on sent qu'il est en dehors des passions idéologiques. C'est-à-dire qu'en en traversant ce siècle étonnant, passionnant, parce que on a l'impression que la jeunesse de tout est là. Pour être franc, oui. On a même l'impression que nombre des débats ou des postures ou des types humains d'aujourd'hui trouvent leur source dans ces événements-là, oui. Oui. Et que malgré tout, à travers certaines filiations, on peut retrouver des types humains qui ont perduré dans les schémas mentaux.
Exactement, des types humains. Et ce qui est aussi particulièrement intéressant dans cette période, c'est qu'on a souvent considéré, et cela a été le cas pour les historiens de l'époque de la Troisième République, par exemple, de considérer que le retour des Bourbons, c'était l'obscurantisme au pouvoir, défaire des bourreaux, l'Inquisition, qui n'a jamais existé en France, peu importe. Alors que c'est une période d'extraordinaire richesse et d'innovation dans tous les domaines. La littérature, par exemple, était languissante et épuisée à la fin du XVIIIe siècle. Surgit Atala, le jeune sublime enfant, dit Chateaubriand, à propos de Hugo. Il y a vraiment toute une naissance, une résurgence. On voit apparaître le Saint-Simonisme, des journaux se multiplient, le Globe. Il y a vraiment toute une presse, à la fois une presse d'opposition et une presse favorable au gouvernement. Donc, vraiment, toute cette sorte de fermentation d'idées est à mettre, à mon avis, au crédit de ces 15 ans seulement. 15 ans pendant lesquels Louis XVIII et Charles X ont régné. Donc c'est cela que j'essaie de retranscrire, parce que Bertin est intimement lié. C'est un personnage de ce temps, et ce journal... a traversé toutes les périodes. Car ensuite, après la mort de Bertin, en 1841, ses fils vont prendre la relève. Édouard, auparavant Armand, et Édouard. Donc c'est toute une famille, une dynastie. Et le mot, je parlais de publiciste tout à l'heure, à propos des... Je vous vois sourire.
Oui, car je prépare la citation de Balzac. Mais je vous laisse terminer sur le mot publiciste.
Eh bien, publiciste, c'est je voulais parler de 1832.
C'est de cela peut-être que vous souhaitiez parler, non ?
Non, Balzac définissait Bertin comme un publiciste, mais évidemment avec beaucoup de,
beaucoup
de sarcasme, mais en fait c'est...
Sa monographie de la presse parisienne est une sorte de pamphlet.
C'est de la méchanceté.
Très méchant. Très méchant et très injuste. Et vous qui êtes journaliste, vous ne pouvez pas souscrire à ça.
Pas du tout. Donc, mais ça ne m'empêche pas de ricaner.
Oui, mais moi je ris aussi, je ricane. Mais en 1832, Chateaubriand, qui a pris parti pour la duchesse de Berry dans son complot et ses tentatives désespérées de soulever la Vendée contre Louis-Philippe, qu'elle considère comme un usurpateur, Berryer, l'avocat, le grand avocat, et Chateaubriand sont pris dans les trames de ce complot. Et Chateaubriand est traduit devant les tribunaux. Toute la salle est là, surchauffée, et le président du tribunal l'interroge. « Monsieur, non, un prénom, un titre, ça. » Et avec un certain dédain, lui dit « Monsieur de Chateaubriand, quelle est votre profession ?» Et il répond « Journaliste ». Et là, véritablement, ce mot est scellé vraiment dans le bronze. Le mot journaliste. Eh bien, s'il dit journaliste, c'est tout simplement parce que, auparavant, il a travaillé dans ce journal des débats. Le mot journalisme est né avec le journal des débats et Chateaubriand lui a donné vraiment toute sa noblesse et sa grandeur.
Grâce à Bertin, qui avait créé le journal des débats, premier authentique journal quotidien en France et conçu comme tel, je pense que ça fait la plus belle des conclusions. Et cela justifie, il n'en était pas besoin, mais cela explique le sous-titre que vous donnez à votre donc, biographie de Bertin, mais qui est bien plus qu'une biographie de Bertin, mais une monographie de la presse française dans l'après-révolution.
Exactement.
Sur sa naissance et son développement, Bertin ou la naissance de l'opinion.
Grand panorama historique dans lequel il vient s'insérer et jouer un rôle incomparable et unique. C'est le seul, véritablement, avoir fait cela avec cette idée qui était encore une fois, comme je l'ai dit, était en germe. Et vous l'avez fort bien rappelé dans votre propos conclusif.
Vous l'avez sorti de l'ombre, car s'il était célèbre parmi ses contemporains, il était tombé dans l'oubli, comme le sont souvent d'ailleurs les chefs d'orchestre. On se souvient des interprètes, mais pas des chefs d'orchestre.
C'est très juste, c'est très juste.
Il s'agit donc, pour lui rendre justice, de se plonger dans Bertin ou la naissance de l'opinion aux éditions de Fallois par Jean-Paul Clément. Je vous remercie beaucoup, monsieur, de cette
vidéo
très évocateur.
Merci. C'était très intéressant et je vous remercie de cet entretien. Merci. Thank you.